Merci d'écouter RFI, les 7h à Paris, 9h à Damas et 22h à Los Angeles.
Andréane Mélard.
Et tout de suite le journal. Bonjour Clotilde Dumais.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Pas de retour à la maison pour le moment pour des milliers d'habitants évacués à Los Angeles. Les incendies ne sont toujours pas contenus et les pompiers s'attendent à de nouvelles rafales de vent qui pourraient attiser les flammes. On fait le point sur la situation avec l'envoyé spécial de RFI sur place dans un instant. La sécurité renforcée en Syrie. Les nouvelles autorités ont déjoué 2 attentats en moins de 48 heures, notamment à Alep. Reportage dans ce journal. Les Polonais divisés sur le cas de Benjamin Netanyahou. Les autorités assurent qu'elles n'arrêteront pas le premier ministre israélien s'il participe aux commémorations des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, et ce, malgré le mandat d'arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale, décision qui a provoqué des manifestations ce week-end. Mobilisation également au Mozambique, alors que le nouveau Parlement élu doit pour la première fois siéger aujourd'hui. L'opposant Venancio Mondlane appelle à manifester contre ce qu'il estime être des élections volées.
24 morts, plus de 12 000 structures détruites ou endommagées en à peine une semaine. Et ce dernier bilan n'est que provisoire. Les incendies ravagent toujours Los Angeles aux États-Unis.
Les flammes ont progressé au nord-ouest de la ville californienne malgré 2 jours de relative accalmie. Ces incendies ne sont toujours pas maîtrisés. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour.
Envoyé spécial de RFI sur place. Et les prochains jours, Guillaume, risquent d'être encore plus difficiles.
Oui, parce que le vent qui était tombé doit se remettre à souffler. Il s'agit du vent Santa Ana qui a attisé ces incendies d'une intensité exceptionnelle. Ces vents vont repartir, peut-être avec un peu moins de force, mais suffisamment pour que les autorités parlent d'une alerte rouge jusqu'à mercredi. Autrement dit, la situation déjà catastrophique pourrait encore empirer. C'est pour cela que ces autorités ne prévoient pas d'autoriser les plus de 100 000 personnes évacuées et déplacées à retourner chez elles avant jeudi au mieux. Ces personnes doivent donc prendre leur mal en patience et s'organiser dans les centres d'accueil de la ville. Un véritable élan de solidarité se met en place. De nombreux bénévoles prennent de leur temps pour récolter et distribuer des dons en nourriture, en eau, en vêtements et autres équipements médicaux. Cela n'empêche pas les comportements moins reluisants. De fausses collectes, des arnaques aux dons sont dénoncées par les autorités qui ont également procédé à des arrestations de pillards, même si le phénomène reste marginal. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a renforcé la mobilisation de la garde nationale qui surveille les zones sinistrées.
Guillaume Nodin depuis Los Angeles pour RFI. Le président Volodymyr Zelensky propose d'envoyer 150 pompiers sur place en renfort. Les Ukrainiens, a-t-il déclaré, peuvent aider les Américains à sauver des vies. Sur un tout autre front, 300 soldats nord-coréens auraient été tués, 2700 blessés dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, chiffre annoncé par les autorités sud-coréennes. À Pyongyang est soupçonné d'avoir envoyé plus de 10 000 hommes en soutien à Moscou. 2 d'entre eux ont été capturés par Kiev ce week-end dans la région russe de Koursk. Volodymyr Zelensky se dit prêt à les échanger contre des soldats ukrainiens prisonniers en Russie.
Les nouvelles autorités syriennes annoncent avoir déjoué 2 attentats en moins de 48 heures.
L'un d'eux visait Alep depuis les zones de contrôle tenues par les Kurdes des forces démocratiques syriennes qui revendiquent une autonomie dans le nord-est du pays. Les services de renseignement et de sécurité générale ont donc renforcé leur dispositif. Reportage à Alep de l'envoyé spécial de RFI Manon Chaplin.
Une butte de terre barre la route qui mène à la zone administrée par les Kurdes des forces démocratiques syriennes. À l'entrée, des soldats d'Ayat Tahrir al-Sham arrêtent chaque voiture, fouillent les coffres, vérifient les pièces d'identité. Il y a 2 jours, une voiture piégée remplie d'explosifs a été trouvée là, en direction d'Alep, raconte Walid à l'entrée du checkpoint.
La voiture venait de la région de Deir Hafer, dans la zone kurde. Lorsqu'elle est arrivée sur ce checkpoint, les policiers ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Ils ont commencé à l'inspecter et en ouvrant les portes, ils ont vu qu'elles avaient été trafiquées. La voiture en fait était remplie d'explosifs cachés à l'intérieur des portières et dans le coffre.
Le long de cette route qui mène de la zone kurde aux portes d'Alep Est, 4 checkpoints ont depuis été montés. Du matin au soir, des policiers du service de sécurité en charge du contre-terrorisme font des rondes, car depuis la chute du régime, les tentatives d'attentats venues de la zone kurde sont fréquentes, explique Abou Hassan à la tête de 500 policiers.
Nous faisions déjà des fouilles auparavant, mais nous avons augmenté les restrictions depuis cette affaire. Il est important que les gens comprennent que ce genre d'opération terroriste est grave, que cela n'apportera jamais la paix dans notre pays, surtout après que Dieu nous a permis de libérer la Syrie et d'éliminer la milice d'Al-Assad.
Il y a 2 jours, les autorités syriennes ont également annoncé avoir déjoué une tentative d'attentat de la part des membres de l'État islamique. Un mausolée chiite près de Damas était visé. Manon Chaplin à Alep, RFI.
Et de son côté, l'Arabie Saoudite appelle à lever les sanctions internationales imposées à la Syrie. À Riyad, une réunion de chefs de la diplomatie européenne et du Moyen-Orient était organisée hier. Le long de la frontière avec la Syrie, l'armée israélienne dit avoir visé des itinéraires de contrebande du Hezbollah sur le territoire libanais. Des frappes qui interviennent à 2 semaines du 26 janvier, date à laquelle l'armée israélienne doit être retirée du sud du Liban dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre. Et puis concernant la guerre dans la bande de Gaza, le premier ministre israélien s'est entretenu par téléphone avec le président américain Joe Biden. Benjamin Netanyahou a, selon son bureau, discuté des progrès dans les négociations en cours sur un accord pour la libération des otages détenus par le Hamas.
Le premier ministre israélien, dont l'éventuelle venue en Pologne fait débat.
À 2 semaines des commémorations des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, les autorités polonaises ont annoncé qu'elles lui garantiraient un accès libre et sûr à la cérémonie, malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale dont il fait l'objet. Décision qui a provoqué de nombreuses critiques et manifestations ce week-end, comme en témoigne cet artiste rencontré par Adrien Sarlat.
J'ai honte d'un gouvernement qui protège les criminels de guerre. Il n'a pas fallu longtemps à l'artiste engagé Bartłomiej Kiełbowicz pour écrire sa réaction aux propos du Premier ministre Donald Tusk. L'inscription en lettres noires au pied de l'emblématique Palais de la Culture et de la Science à Varsovie dénonce la supposée complaisance de la Pologne vis-à-vis de Benjamin Netanyahou.
J'ai été surpris et en colère car je n'étais pas d'accord avec cette décision. Selon moi, la place des criminels de guerre est en prison. Alors j'ai réagi très vite, j'ai découpé un pochoir et 2 heures plus tard, j'étais déjà en train de taguer cette phrase sur les murs du centre-ville de Varsovie.
Une réaction à chaud, une phrase accusatrice écrite en anglais et une photo repartagée par près de 300 000 personnes sur Instagram. Tout le week-end, des manifestations dénonçant la position des autorités ont essaimé dans toutes les grandes villes du pays, transformant ce fameux tag en un slogan.
Les photos que j'ai postées sur Internet sont devenues si virales que je suis persuadé que le gouvernement en a entendu parler. Je pense que nos dirigeants, qui communiquent eux-mêmes sur les réseaux sociaux, devraient aussi prendre en compte ce qui s'y dit et écouter la voix des citoyens. Et moi, en tout cas, j'ai voulu montrer que j'étais opposé à la venue de Netanyahou.
Reste à savoir si le Premier ministre israélien saisira l'occasion d'assister aux commémorations le 27 janvier prochain. Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
Semaine cruciale pour le Mozambique. La première session parlementaire de l'Assemblée nationale élue lors des élections générales du 9 octobre est prévue aujourd'hui, avant l'investiture mercredi de Daniel Chapo, vainqueur de la présidentielle. Mais ce week-end, l'opposant Venancio Mondlane, de retour de son exil, a appelé à 3 jours de grève nationale pour s'opposer à la fraude électorale. Les précisions de François Mazé.
Dès hier soir, le centre-ville de Maputo était quadrillé par la police. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Venancio Mondlane a appelé samedi à 3 jours de manifestations pacifiques. Selon le candidat malheureux à la présidentielle qui clame toujours sa victoire, cette semaine représente la dernière ligne droite pour sauver la démocratie mozambicaine. Les deux principaux partis de l'opposition, la RENAMO et le Mouvement démocratique du Mozambique, ont annoncé le boycott de l'investiture par leurs députés. Selon le porte-parole de la RENAMO, cette cérémonie constitue un outrage social et un manque de respect de la volonté des Mozambicains. Les deux partis continuent de demander le recomptage des bulletins de vote des élections générales du 9 octobre. Sur la place de l'Indépendance, les travaux de construction de l'estrade et du chapiteau qui accueilleront l'investiture du président Daniel Chapo mercredi vont bon train. Cette cérémonie met mal à l'aise une partie de la communauté internationale. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa continue ainsi de réfléchir à l'invitation qui leur a été faite.
Le Mozambique, par ailleurs, menacé par l'arrivée de la tempête Dikeledi. Elle a déjà fait 3 morts à Madagascar et presque 1 millier de sinistrés. À Mayotte aussi, la tempête et ses pluies diluviennes ont fait des dégâts et font craindre des inondations. L'alerte rouge est maintenue jusqu'à ce soir. Les habitants doivent rester confinés.
RFI 7h09 à Berlin. Week-end très politique en Allemagne.
Un peu plus d'un mois des élections législatives. Plusieurs partis ont désigné leur tête de liste et détaillé leur programme, Pascal Thibault, pour véritablement désormais entrer dans le dur de la campagne électorale.
Une dissolution pour rien ? La question se pose à 6 semaines des législatives. Olaf Scholz est sans doute le seul en Allemagne à croire encore à sa victoire et à sa survie politique. Le curseur du SPD dans les sondages reste bloqué autour de 15%. Le chancelier a beau jouer la carte de l'expérience et défendre les petites gens contre des conservateurs qui voudraient démonter l'État social, rien n'y fait. Le curseur des chrétiens démocrates, avec environ 30% des intentions de vote, reste tout aussi bloqué, malgré un gouvernement dont la popularité est historique. L'agenda 2030 de la CDU et ses généreuses baisses d'impôts sont perçues comme peu réalistes. Le candidat à la chancellerie du parti, Friedrich Merz, ne fait pas vibrer les foules. L'extrême droite, dont le programme adopté hier est plus radical que jamais, a le vent en poupe, avec 22% des intentions de vote dans un récent sondage pour l'AFD. Le cordon sanitaire des autres partis, contrairement à l'Autriche voisine, tient bon, mais semble ne servir à rien. La surenchère de propositions des autres partis sur l'immigration, sujet numéro un des électeurs aujourd'hui, semble profiter à l'extrême droite. Pascal Thibault, Berlin RFI.
De la politique aussi en France, le Premier ministre reçoit dès ce matin les principaux syndicats agricoles avant un rendez-vous en fin de journée avec les présidents des deux chambres du Parlement. Dernière tractation pour François Bayrou avant son discours de politique générale prévu de demain.
Il est 7h11 à Paris quand l'art se met au service de l'engagement social. Ça donne ce projet en musique pour plus d'humanité lancé il y a 6 ans en France par un orchestre de jeunes talents.
L'orchestre Ostinato, tremplin pour les futurs musiciens professionnels et qui travaille depuis octobre dernier, sur un nouveau projet auprès des publics isolés, détenus, réfugiés et personnes en situation de précarité sont associés à une création qui mêle danse, éloquence et musique. Le résultat est à découvrir dans la nef du musée d'Orsay à Paris ce lundi. Carmen Lunzmann a assisté à une répétition.
Vêtue de chapeaux, de jupes en tulle et autres accessoires prêtés par l'Opéra de Paris, une troupe hétéroclite découvre la symphonie fantastique en dansant.
Je suis au Secours Populaire pour des aides alimentaires. Et comme par magie, il y a eu ce projet que j'ai pas pu refuser.
Sofiane, 31 ans, venant d'Algérie, incarne le rôle de Berlioz, le compositeur dans cette chorégraphie créée avec un danseur à l'Opéra de Paris, Maxime Thomas.
Il y a des gens d'Afghanistan, d'Iran, du Bangladesh. Donc à travers le geste, le mouvement, la danse, c'est une porte d'entrée vers une expression de soi, développer aussi leur confiance en eux et peut-être une force intérieure qui leur sera utile dans la vie de tous les jours.
L'intégration, bien sûr, ça n'a pas été facile au début.
Confirme Tierno, 18 ans, qui a dû quitter la Guinée-Conakry.
Parce que l'école là où j'étais a été détruite. Mais quand je danse, je sens tout mon amour. Je ressens que des belles choses, quoi.
Mission accomplie pour Emmanuelle Dutu, directrice de l'orchestre Ostinato, qui est à l'origine du projet, nourri aussi par des témoignages des réfugiés.
Quand ils vont déclamer des textes de leur parcours, c'est là qu'on réalise qu'ils ont vraiment des choses lourdes derrière eux. On a un danseur mauritanien qui a failli mourir plusieurs fois dans des traversées clandestines. C'est l'émotion qui va ressurgir.
Le corps dit beaucoup de choses, enfin, je dis plus que la parole.
Voilà, la symphonie fantastique de Berlioz avec l'orchestre Ostinato. C'est donc ce lundi au musée d'Orsay à 20h, heure de Paris.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci Clotilde Dumay, vous revenez tout à l'heure à 9h. 7h13 à Paris, dans un quart d'heure RFI matin. L'information africaine. Avant cela, notre grand invité international dans 5 minutes, Camille Grand, directeur pour la défense au Conseil européen pour les relations internationales. Entretien à suivre avec Arnaud Pontus, mais d'abord le sport. Avec vous, Antoine Grenier, et du football, le Barça s'offre la Supercoupe d'Espagne au terme d'une nouvelle démonstration lors d'un classico.
Les Catalans ont surclassé le Real Madrid 5-2 à Jeddah en Arabie Saoudite pour s'adjuger la 15e Supercoupe de leur histoire. Malgré l'ouverture du score rapide de Kylian Mbappé, les Blaugrana ont marqué 5 buts en moins de 40 minutes. Et même si Chesney, le gardien barcelonais, a été exclu à la 56e, le Real n'a jamais pu inverser la tendance. Après le 4-0 infligé à Santiago Bernabéu, le Barça prouve une nouvelle fois sa supériorité actuelle sur son rival. Et pour le latéral français, Jules Koundé, auteur d'une passe décisive, c'est une vraie satisfaction de remporter à nouveau un trophée.
Ce titre a une saveur particulière. Cela faisait un moment, une saison, que nous n'avions pas gagné de trophée, donc ça fait du bien. Encore plus dans un classico contre le Real Madrid. On a parfaitement appliqué ce plan de jeu, un peu comme au Santiago Bernabéu. On savait qu'on devait les presser et ne pas leur laisser des espaces, sinon c'est compliqué. Le premier but de Mbappé était contre le cours du jeu, mais on a gardé notre calme et on savait qu'en appliquant ce plan, on gagnerait.
Désormais, le duel va se poursuivre en Liga. Une Liga dominée par l'Atlético de Madrid qui a dominé Osasuna 1-0. Le Real est deuxième à 1 point et le Barça troisième à 6 points de la tête.
En France, Paris retrouve ses 7 points d'avance en tête de la Ligue 1.
Les champions de France en titre ont battu Saint-Etienne sur le score de 2-1 grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé en première période. Déjà prolifique au mois de décembre, le voilà auteur de 6 buts sur ses 4 derniers matchs en comptant le trophée des champions. Joli bilan pour un joueur souvent décrié pour son inefficacité, mais selon lui, il reste le même, il a tout simplement plus de réussite et son équipe en profite.
Non, c'est pas nouveau du tout. J'ai toujours été comme ça. Voilà, maintenant que ça rentre, c'est bien. Et voilà, on va essayer de continuer comme ça. En deuxième période, on ne s'est pas facilité cette fin de match. Voilà, ils ont poussé. Ils ont joué leur jeu. Voilà, ils ne sont pas venus ici pour défendre. On a eu beaucoup d'espace. Je pense qu'on pouvait marquer 2 ou 3 buts de plus. Mais bon, c'est comme ça, on est content de repartir avec les 3 points.
Une 17e journée de Ligue 1 qui aura vu la victoire de Lens 2-1 sur le Havre, de Strasbourg sur le même score face à Toulouse et d'Angers sur la pelouse de Montpellier 3-1.
Enfin, en tennis, l'Open d'Australie à Melbourne, premier grand chelem de 2025 et le finaliste d'il y a 2 ans ne passe pas le premier tour.
Stefanos Tsitsipas, éliminé en 4-7 par le jeune américain Alex Mikkelsen. Le grec n'a réagi que trop tard en décrochant la 3e manche, mais il s'incline 7-5, 6-3, 2-6, 6-4. Premier tour pas forcément simple hein, pour les favoris, puisque le numéro 1 mondial, l'italien Yannick Sinner, a dû batailler face au chilien Nicolas Jarry. Vainqueur du premier set au tie-break, 7-6, Sinner a été accroché dans la deuxième manche, qu'il a également conclu au jeu décisif. Le troisième set aura quand même été plus simple, 6-1 en faveur de l'italien qui rejoint le deuxième tour.
Un lundi synonyme d'entrée en lice pour deux anciens numéro 1 mondiaux.
Novak Djokovic face à l'américain Nishesh Basavaredi et Carlos Alcaraz, troisième à l'ATP face au kazakh Alexander Shevchenko. Chez les dames, pas de surprise pour Iga Świątek. La numéro 2 mondiale n'aura passé qu'1h23 sur le court pour s'imposer 6-3, 6-4 sur la tchèque Siniakova.
Merci Antoine Grenier. Et tout de suite, votre rendez-vous aujourd'hui, l'économie sur RFI et Stéphane Genest en studio. Bonjour Stéphane.
Bonjour Andréane.
Vous nous parlez ce matin d'un pays au nord de l'Amérique latine, coincé entre le sud du Venezuela et l'océan Atlantique, le Guyana. Ses exportations de pétrole ont explosé en 2024, plus 54%. Le pays pèse dans le marché du pétrole.
Oui, le Guyana, c'est une économie toute récente. Hein. Elle a à peine 10 ans. L'explication, c'est qu'un gigantesque gisement de pétrole a été découvert à seulement 200 km de ses côtes en 2015. Depuis, le pays de seulement 800 000 habitants connaît la plus forte croissance de la planète. Croissance assez impressionnante, il faut bien le dire, aux alentours de 35%. Le Fonds monétaire international estime d'ailleurs dans ses prévisions que ça devrait continuer ainsi jusqu'en 2028.
Une situation économique qui entraîne une transformation pour le moins accélérée de son développement, on peut l'imaginer. Hein.
Exactement, Andréane. C'était il y a peu le deuxième pays d'Amérique du Sud au plus faible revenu par habitant. Maintenant, c'est tout l'inverse, à tel point que le Guyana est aujourd'hui l'un des pôles les plus attractifs de la région. La compagnie pétrolière américaine ExxonMobil l'a parfaitement saisi et y a investi des dizaines de milliards de dollars dans l'extraction de pétrole. La production est telle que le Guyana est en passe d'entrer dans le top 20 des producteurs mondiaux avec 770 000 barils par jour cette année et une ambition affichée d'1,8 million d'ici 10 ans. En fait, si l'on rapporte au nombre d'habitants, les réserves du Guyana sont équivalentes à celles de l'Arabie Saoudite.
Mais pourtant, Stéphane, la population précisément ne bénéficie pas pleinement de cette activité.
C'est le moins que l'on puisse dire. Si le PIB par habitant est élevé, pratiquement la moitié de la population vit avec moins de 5,50 $ par jour, ce qui les place sous le seuil de pauvreté. Une croissance qui entraîne une inflation qui ne bénéficie pas aux locaux. Les investissements étrangers ont fait exploser les prix des loyers et de l'alimentation. D'après le département d'État américain, l'inflation a atteint les 6,6% en 2023. Le pays a d'ailleurs connu un vaste mouvement de grève au printemps dernier. Le groupe américain, donc ExxonMobil, pour sa part, explique que la création d'une industrie pétrolière à partir de zéro a profité aux Guyaniens avec la création d'emplois locaux et l'avènement de sous-traitants.
Et donc, le Guyana ne se repose que sur cette ressource qu'est le pétrole.
Oui, c'est un peu ça, avec le risque principal qu'est l'épuisement de cette ressource. Sans jouer les oiseaux de mauvais augure, cette situation a un nom, la malédiction des ressources naturelles. Des décennies de boom économique qui enrichissent les dirigeants alors que la population reste sous le seuil de pauvreté. La situation du Guyana pourrait en être une illusion. Illustration du 21e siècle.
Et pourtant, le Venezuela a des vues sur ce pétrole et une partie du Guyana.
Oui, Caracas revendique la région de l'Essequibo, zone frontalière entre le Guyana et le Venezuela, sous laquelle se trouvent 16 milliards de barils équivalents pétrole, d'après la société de recherche énergétique Rystad. Réserve qui fait évidemment des envieux, des envies qui pourraient être de nouveau d'actualité, alors que Nicolas Maduro vient d'être renouvelé au pouvoir au Venezuela et que les prochaines élections guyaniennes ont lieu à la fin de l'année.
Merci Stéphane Geneste. Notre grand invité international sur RFI, Arnaud Pontus, vous interrogez ce matin Camille Grand, directeur pour la défense au Conseil européen pour les relations internationales.
Bonjour Camille Grand.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en duplex de Bruxelles. Dans une semaine tout juste, Donald Trump fera son retour à la Maison-Blanche. En l'espace de quelques jours, le président élu a dit vouloir faire du Canada le 51e État américain, annexer le canal de Panama et acheter le Groenland au Danemark, voire s'en emparer par la force. Est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux ?
Alors, avec Donald Trump, il y a toujours deux éléments. Il y a le premier élément qui est sa tendance à l'excès verbal. Il faut se réhabituer à cette espèce à la fois une tactique de négociation, une manière d'attirer l'attention médiatique. Il n'y a pas de mauvaise publicité pour Donald Trump. Ouais. Et d'un autre côté, la réalité de ses instincts géopolitiques, qui sont bien ceux qu'il a exprimés dans sa conférence de presse à Mar-a-Lago, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis doivent contrôler l'hémisphère occidental, que les relations internationales sont des rapports de force dans lesquels, y compris et peut-être même avant tout avec les alliés, on utilise le rapport de force comme moyen de parvenir à ces objectifs. Donc on est vraiment dans un entre-deux. Il est peu probable que les États-Unis envahissent le Groenland dans l'avenir prévisible, mais on doit se préparer, à commencer par le Danemark, à des relations conflictuelles sur ce type de sujet.
Il faut qu'on se réhabitue à Donald Trump, en quelque sorte.
Il y a un peu de ça, mais la question qui est ouverte, c'est de savoir si Trump 2.0, on peut dire, sera plus facile ou plus compliqué à gérer.
Ah oui, alors ça c'est toute une question, Camille Grand, parce que vous avez pratiqué le Trump 1, si je puis dire, en tant que secrétaire général adjoint de l'OTAN dès 2016. Vous avez donc l'expérience de ces méthodes, l'expérience d'une certaine brutalité, pour tout dire.
Absolument. Et je pense que le personnage lui-même n'a pas changé et que c'est ni ses instincts politiques ni sa manière de fonctionner n'a profondément évolué. Ce qui a changé, c'est qu'il arrive avec une administration qui lui sera plus loyale et qui sera plus alignée sur ses vues et qui donc ne jouera pas le rôle de ce qu'on appelait pendant son premier mandat des adultes dans la pièce qui expliquaient au président que ça n'était pas comme ça que ça se passait, qu'on devait préserver l'OTAN, préserver les bonnes relations avec les Européens autant que possible et ainsi de suite. Donc là, on va avoir autour de lui principalement, pas uniquement, exclusivement, mais principalement des gens qui vont suivre ces instructions et mettre en œuvre ces orientations.
Oui, pour être clair, Camille Grand, vous nous dites que les personnalités qui sont pressenties pour l'instant pour l'entourer ne vont pas le modérer ou lui apporter la moindre contradiction.
Pas toutes. En tout cas, il y a quelques personnalités assez fortes. Marco Rubio comme secrétaire d'État, donc comme ministre des Affaires étrangères. Oui. Michael Waltz comme secrétaire comme conseiller pour la sécurité nationale sont des gens qui ont une vraie autorité.
Mais
quand
les
on
autres...
voit par exemple le profil du secrétaire à la défense, qui est un commentateur de Fox News, on n'a pas du tout le type de personnalité qu'était Jim Mattis pendant son premier mandat, par exemple.
Oui, donc vous nous dites que Trump 2 pourrait être encore plus difficile à gérer que Trump 1.
Certainement plus compliqué à beaucoup d'égards.
Oui. Le Canada, le Panama, le Groenland, c'est important, bien sûr, mais vous nous disiez qu'il y a peu de chances que les menaces arrivent à exécution. L'inquiétude principale du côté européen, elle concerne l'Ukraine. Est-ce que Donald Trump va se désengager de cette guerre ?
Alors c'est intéressant parce qu'il a annoncé pendant la campagne qu'il réglerait ce conflit en 24 heures, ce qui n'est pas une blague. Il y a une manière de le régler en 24 heures qui est de céder aux exigences de Vladimir Poutine.
Oui, c'est d'arriver à la capitulation.
Voilà, et de forcer les Ukrainiens à une forme de capitulation. Donc il y a une vraie inquiétude de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas renommé, qu'il a nommé un général qui s'appelle le général Kellogg pour ce dossier, qui a dit des choses plutôt rassurantes vu des Ukrainiens, et que par ailleurs il n'a pas répété cette affirmation des 24 heures pendant la campagne. Donc les Ukrainiens jouent sur l'idée d'une paix par la force en disant si vous nous aidez davantage, nous pouvons obtenir la victoire sur le terrain et changer le rapport de force. La vraie inconnue, me semble-t-il, c'est l'appétit de Poutine pour une paix même vaguement négociée. Et c'est là que Trump risque de se casser les dents, c'est-à-dire en se tournant vers les Ukrainiens, sur lesquels il a beaucoup de poids, évidemment, et de levier, d'entendre en revanche à Vladimir Poutine qui lui dise « Pourquoi est-ce que je signerai un compromis dans la mesure où je m'apprête à conquérir le tiers de l'Ukraine que je souhaite et où je pourrais imposer ma volonté par les armes à l'Ukraine. »
Oui.
Donc il va y avoir un jeu compliqué, et c'est là que les Européens doivent peser davantage et être très clairs sur leurs attentes, parce que c'est aussi notre sécurité qui se joue en Ukraine.
Mais est-ce que les Européens ont un plan pour l'Ukraine en se passant des États-Unis ?
Hélas, non. Ils ne l'ont pas préparé parce qu'il y a une forme de déni, d'idée que Kamala Harris serait réélue, que tout se passerait...
Que ça continuerait comme d'habitude.
Que ça continuerait comme d'habitude. Ouais. Et donc, il y a peu d'Européens qui ont vraiment réfléchi à ces questions. Et là, il y a un vrai risque qui est que si on n'est pas à la table de négociation, on est souvent au menu des négociations.
Ouais. Est-ce que l'Europe peut se défendre sans l'Amérique, Camille Grand, pour le dire simplement ?
Alors, demain, probablement très difficilement, notamment à cause de la dissuasion nucléaire élargie et du rôle des États-Unis dans des domaines comme le renseignement, à plus long terme, se défendre avec en tout cas moins d'Amérique, c'est possible si les Européens se ressaisissent, si les Européens travaillent à combler les trous capacitaires, comme on dise les militaires, c'est-à-dire les domaines dans lesquels ils ont une trop forte dépendance vis-à-vis des Américains. Si les choses se font de manière ordonnée, à un horizon de 5 ou 10 ans, il n'y a pas de raison que l'ensemble des Européens soient pas capables de défendre le continent européen, même contre la Russie.
Oui, et Camille Grand, en tant que secrétaire général adjoint de l'OTAN, une fois de plus, hein, vous étiez en charge du dossier investissement de défense, hein, c'est dire si votre point de vue est informé. Pour être capable de faire avec moins d'Amérique, sur quoi l'Europe doit-elle porter l'effort, puisqu'il faut prendre le relais en quelque sorte?
Alors, la première chose, c'est qu'il faut dépenser sans doute un peu plus, pas énormément, mais un peu plus pour, et surtout dans la durée. Le problème des Européens, c'est qu'ils ont engrangé ce qu'on a appelé les dividendes de la paix pendant une ou deux décennies et qu'ils se sont retrouvés un peu en difficulté quand il a fallu réinvestir dans le domaine de la défense. Ensuite, il faut se doter des capacités critiques qui permettent d'agir seul,
oui.
De pas être dépendant des satellites américains, des drones américains, du renseignement américain, pour être vraiment beaucoup plus autonome dans la prise de décision et dans l'analyse de la situation.
Oui, et puis ça veut dire beaucoup... Pardon, oui, terminé, pardon, Camille Grand.
Non, et enfin, il y a le sujet très compliqué de la dissuasion nucléaire, où là, la dépendance vis-à-vis des États-Unis est forte, mais il y a en Europe deux puissances nucléaires, la France et le Royaume-Uni, qui peuvent jouer un rôle, mais c'est vraiment là un sujet bien, bien compliqué.
Bien sûr. Camille Grand, d'un mot, ça veut quand même dire beaucoup, beaucoup d'argent, tout ça.
Alors, aujourd'hui, les Européens dépensent en moyenne 2% de leur PIB pour la défense.
Oui.
C'est un point de moins que pendant la moyenne de la guerre froide, donc on n'est pas dans quelque chose qui est hors de portée.
L'effort
est possible, mais c'est effectivement maintenir et investir davantage dans la défense dans les années qui viennent.
Merci à vous, Camille Grand, d'avoir été en ligne avec nous de Bruxelles ce matin.
Et cet entretien avec Arnaud Pontus est à retrouver sur notre site rfi.fr dans une minute le journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
moi sans alcool, Dry January pour faire le point de sa consommation.
Demain,
devenir parent quand on est handicapé, reportage de Charlie Dupiot.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
tempête sur le marché du café. Cette boisson ultra populaire va-t-elle devenir un produit de luxe ?
Demain,
recherche d'emploi, des spécialistes répondent aux questions des jeunes diplômés.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp
33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge App Afrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez jusqu'au 26 janvier sur appafrique@rfi.fr.